Matin à tous. Ça fonctionne bien le micro? Alors, je vais juste prendre quelques minutes un peu pour... Il y a des nouveaux visages que je ne connais pas et puis je suis content d'être avec vous ce matin. On est arrivé, Catherine et moi, ce matin et puis on est rentré dans le stationnement. Et puis, bon, le stationnement. Hein? Devant le bâtiment, puis bon, le bâtiment. Mais quand on a vu des gens, ah! Dans notre cœur, ça bouillonnait. De voir des gens de la famille, et puis parce que vous êtes de la famille. Et puis de pouvoir vous serrer dans nos bras, ceux d'entre vous qu'on connaît plus proches. Et puis de voir les Bascounianes ce matin, quel privilège. On est vraiment content d'être parmi vous. On s'ennuie, et puis on est content. Il y en a qui nous ont visités cet hiver. Entre autres, en la grosse neige, en pleine tempête, les Hernandez et puis les Roberts sont venus. On a fait de la motoneige, hein? Alors, ils ont goûté un peu à l'hiver du lac Saint-Jean. Juste pour vous donner un petit peu, Alma, c'est une ville de 25-30 000 habitants. Et puis, l'Église baptiste évangélique est une assemblée qui compte environ 45 membres. Il y a des jeunes familles, il y a des vieux, il y a de tous âges. Il y a des nouveaux convertis, il y a des vieux convertis depuis 30 ans. Et puis, mon grand-père a fondé cette église-là il y a 35 ans. Alors, c'est un privilège, d'après plusieurs années, pouvoir suivre un peu ce que Dieu a construit et y participer moi-même, avec son petit-fils, et puis lui est bien content de ça aussi. Deux bénédictions que je voudrais vous partager qui font partie de la vie de l'Église cette année. Il y aurait beaucoup de choses. Ça a été une année d'initiation avec toutes sortes de choses, des funérailles, beaucoup d'activités, de surprises en cours de route. Est-ce que je suis trop près? Ça va? Maintenant, je vais me reculer un petit peu. Hein? Maintenant, on a eu entre autres une étude biblique des jeunes hommes, 20-30, qu'on a faite pendant l'hiver. Et puis, il y en a qui ont lu « Devenir un chrétien contagieux ». Je pense que vous avez fait ça à l'école le dimanche aux adultes. Et puis, on a lu ça en tant qu'homme cet hiver. Il y avait des mariés, des célibataires, et puis il y en a plusieurs à l'église. Alors, on a entrepris une étude biblique comme ça. Et puis, le Seigneur a brassé notre cœur, moi-même aussi. Notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et puis, alors, on s'est donné des défis. On a prié les uns pour les autres. On a mis des gens en prière. On a mis des choses en action. Puis Dieu a béni ça dans notre vie personnelle. Vers la fin du cours, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour rejoindre les gens d'Alma? Il me semble qu'on peut faire quelque chose en groupe, là. Pas juste chacun de son côté, mais en groupe. En tant qu'homme, puis on pourrait inviter les autres hommes de l'Assemblée aussi. Alors, il y en a un qui a eu une idée extraordinaire. Et puis, c'est une réponse aux prières, parce que tout au long de l'étude biblique, à chaque semaine, je demandais au Seigneur, donne-nous quelque chose qu'on peut faire en tant qu'homme, qui va te permettre de briller dans la communauté. Alors, il y en a un qui dit, écoute, on pourrait faire des déménagements gratuits. Hein? Les gars, ça vous tente-tu? Et puis, qui paye pour ça? Alors, les gars, ils ont marché ce projet-là, et puis on pourrait demander aux autres hommes, et puis on pourrait appeler des organismes en ville, puis ils vont nous référer des gens vraiment dans le besoin, qui sont mal pris avec le déménagement au mois de juin et juillet. Eh bien, de fil en aiguille, ça s'est construit, ce projet-là. Et puis, on a fait notre dernier déménagement hier matin. 5 déménagements. Des gens qui étaient vraiment mal pris. Mère avec 2 enfants. Une dame qui a foyer brisé. Elle tombe en appartement toute seule. De toutes les sortes. On a fait 5. Et puis, la cousine de mon voisin à qui j'apprends à connaître, c'était une de ces dames-là, qui connaît un chrétien qui l'avait invité à l'église. Tu sais, ce genre de mélange-là, de relations. Le Seigneur avait préparé ces choses-là. Une fille mère, une jeune femme mère qui a des enfants du même âge que les nôtres, on va la visiter prochainement. Elle dit, « Ah, tu as des enfants, on aimerait ça qu'ils jouent ensemble. » Et puis, le Seigneur ouvre des portes comme ça. Il y a 17 hommes à l'Assemblée qui ont participé à ça. Extraordinaire, hein? On a exclu les femmes. On dit, ça, c'est un projet d'homme. Peut-être une autre année, mais cette année, on a dit, hey, on va faire quelque chose pour mobiliser les hommes. Et Dieu a béni ça de manière extraordinaire. Il y a un verset qui est venu avec ça, et puis qu'on trouve, qui vraiment a motivé cet effort-là, si vous tournez dans Matthieu 5, 16. Un verset qui nous a bénis, qui nous a vraiment stimulés. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Hein? On veut qu'ils voient nos bonnes œuvres pour qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Et puis, je pense que ça va continuer. Il y a eu une vague de ça, et puis il va y avoir des visites suite à ça, et puis des rencontres en ville, et puis on demande au Seigneur qu'il puisse bénir ça. C'est un début. Une autre bénédiction aussi que je voudrais vous partager, c'est qu'on a eu des funérailles cette année. Ce n'est pas des bénédictions, des funérailles. Hein? Mais le Seigneur a tourné des funérailles en bénédiction. On a vu ça à peu près 4-5 fois cette année, parce qu'il y a eu des familles dans l'Église qui perdaient un de leurs proches, puis la parenté demandait qu'il y ait quelqu'un de l'Église qui parle. Alors, je me suis retrouvé à parler dans des funérailles où il y avait des inconvertis qui ne connaissaient pas Dieu 3 fois cette année. Mais il y a eu une situation dans l'Église où on a perdu un père de famille à 50 ans. C'était une surprise. Et puis cet homme-là est décédé, il a fait une première crise de cœur, et puis il s'est bien remonté de tout ça. Le samedi, j'étais à l'hôpital une semaine après, puis on parlait ensemble, puis il parlait de remercier les gens à l'hôpital qui avaient pris soin de lui, et ainsi de suite. Puis le lendemain matin, Dieu était venu le chercher. Alors on a un téléphone à 10 heures, entre la louange et la prédication. Et puis là, avec mon confrère ancien qui était là, Luc Cloutier, on a dit « on s'en va à l'hôpital ». Et puis les frères et sœurs ont prié, puis ont fait une lecture, et puis on a perdu un des nôtres, et puis un père de famille de 3 enfants. Et puis Dieu a tourné ça en bénédiction. Pourquoi? Eh bien, il n'y avait pas de parenté dans le coin, mais il y a eu beaucoup de collègues de travail, des amis de la famille qui étaient là. Et puis au salon, on a fait une petite cérémonie au salon, et puis les gens ont entendu l'Évangile. Ils ont entendu le message d'espoir de Jésus-Christ. Où est allé Lucien Bélan, qui est ce frère-là, qui est parti retrouver Dieu? Et puis, il y avait des gens à côté pour une autre célébration de funérailles. Et puis nous, on chantait pas fort. On chantait, on glorifiait Dieu, même dans le deuil. Et puis, il y a des gens qui ont traversé parce qu'ils trouvaient ça beau. Ils sont venus entendre chanter. Puis ensuite, ils sont restés pour entendre la parole de Dieu. 10-12 minutes. Et puis le Seigneur s'est fait connaître comme ça. Le nom de Jésus-Christ a été annoncé. Encore hier après-midi, on a eu encore des funérailles, c'était une de ces fois-là. Et puis le message de l'Évangile est annoncé. Des familles inconverties qui ont dit, on aimerait ça que quelqu'un d'autre catholique vienne nous lire puis nous parler. Je pense que Dieu veut ouvrir des portes comme ça à Alma. Il y a eu trop de circonstances comme ça, parce que Dieu nous a donné cette occasion-là. Alors, c'est peut-être un sujet de prière que je vous soumets, que Dieu puisse nous donner des occasions comme ça de briller, et peut-être lors des funérailles. On va aussi travailler sur notre vision à l'Église pour les prochaines années, comment est-ce qu'on veut rejoindre la communauté, et puis regarder certaines choses ensemble, se donner des objectifs, soumettre ça à Dieu. On va faire ça cet automne. Alors, si vous priez pour nous, 2 requêtes, peut-être, comment est-ce que Dieu dirigerait pour qu'on puisse briller dans la communauté, et puis notre travail de vision qui s'en vient cet automne. J'aimerais ça ouvrir la parole avec vous ce matin, puis c'est un privilège. J'aimerais ça vous inviter à tourner dans Jacques. On a fait une étude dans l'épître de Jacques qui s'est terminée au courant de l'hiver, qui s'est terminée il y a 2 semaines. Et puis le Seigneur nous a vraiment bénis dans la parole, et j'aimerais qu'on regarde quelques instants la parole ce matin dans Jacques. Courbons-nous un instant, s'il vous plaît. Merci, Père Céleste, parce que ta parole est la vérité, et ta parole parle avec puissance. Ta parole adresse les besoins de notre cœur. Ta parole, c'est toi, Seigneur, qui nous parle. C'est ton esprit qui convainc nos cœurs. Elle ne revient jamais sans avoir eu un effet sur nous. Puisses-tu nous bénir ce matin? Bénir chacun de nous assis dans notre siège avec les choses qui se trament dans notre cœur. Puisses-tu nous parler ce matin comme toi seul le fais? Amen. On a un frère de l'Assemblée qui est allé en mission cet hiver, 2 semaines. Il est allé en Haïti. Est-ce qu'on a des gens qui sont d'Haïti ici? On en a quelques-uns. Alors, il est revenu, il nous a partagé son expérience. C'est la 2e fois, il était parti 1 mois avec les assemblées de la Bible parle. Et puis, évangélique, la Bible parle. On a des frères qui sont à la baie, à côté de Chicoutimi. Et puis, ils font un voyage régulièrement. Ils ont commencé une œuvre en Haïti, une œuvre de construction, mais d'évangélisation, qui s'échelonne sur plusieurs années. Et puis, ce frère-là allait aider pour la construction. Lorsqu'il est revenu, il nous a partagé. Il dit, on vit quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on va en Haïti. Ça nous change de notre quotidien. Ça nous déstabilise parce qu'on est habitué à toutes sortes de choses, les nouvelles du soir, l'eau qui coule, l'électricité, toutes sortes de choses comme ça. Et puis il dit, dans la mission où on était à Tiverny, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis. Il dit, c'est un temps de sobriété de toutes les facilités qu'on a. Et puis notre frère François Harvey nous partageait ça, puis il dit, je me suis senti comme en cure de désintoxication. Et voilà, de l'Amérique du Nord, de toutes ces facilités-là. Il dit, écoute, il dit, à 8 heures, la génératrice de la mission ferme, là, fait que si tu n'as pas fait tes affaires, c'est dans la lampe de poche, là, comme un camping. Il dit, écoute, il n'y a pas de dépanneur au coin de la rue. Là. Il dit, on mange, puis mange, parce qu'à soir, tu ne mangeras pas. À moins que tu aies amené des collations. Tu ne peux pas aller acheter quelque chose, un Pepsi au coin de la rue si tu as le goût de luncher le soir. Il y a des choses comme ça où on dépend de Dieu. Il dit, j'ai dépendu du Seigneur plus là en un mois que je fais dans ma vie quotidienne. Des frères et sœurs. De dépendre du fait que, bon, ben tu veux de l'essence, tu vas aller en ville, tu ne sais pas combien de temps que ça va te prendre. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer sur la route, c'est vrai. Il y a beaucoup d'imprévus. Et puis, ils ont vécu beaucoup d'épreuves en Haïti, qui fait en sorte que la vie n'est pas aussi facile qu'ici. Puis ce frère-là nous partageait le fait que les facilités ici sont vraiment marquantes lorsqu'on revient. Et on dépend beaucoup de nos propres ressources. Mais lorsque ces ressources-là manquent, comme ça en mission, là on trouve d'autres ressources, beaucoup plus riches, beaucoup plus abondante que souvent nos propres ressources. Il nous a partagé qu'il était obligé. C'est ce qui arrive souvent quand Dieu envoie des épreuves. Hein? On est obligé. Il y a beaucoup de chrétiens, souvent c'est moi, j'ai toutes mes ressources et je m'appuie sur mes ressources. Puis si je me fais faire le bilan de qu'est-ce qui, dans ma vie, dépend réellement de Dieu, je cherche longtemps. Des fois, il n'y a pas beaucoup de choses qui dépendent de Dieu parce que je suis rempli de ressources. Je suis organisé. Vous êtes organisé? Et puis, j'ai les moyens. J'ai toutes sortes de choses. Je suis capable de m'en virer de bord. Et puis, lorsque les ressources manquent, c'est là qu'on le réalise vraiment. L'abondance nous amène à être indépendants de Dieu. C'est ça la réalité. L'abondance matérielle, entre autres. Lorsque les ressources que j'ai répondent à mes besoins, je demande moins au Seigneur. Je prie moins. C'est un symptôme qu'on vit souvent. Je vais recevoir moins de choses du Seigneur, je demande moins. Je vous donne un exemple. Si mon téléviseur m'apporte du repos et des distractions, eh bien, je vais avoir moins tendance d'aller vers Dieu pour me reposer et trouver du calme et de la quiétude. J'en trouve à peu près devant le téléviseur. Si j'ai beaucoup d'amis qui m'écoutent, me confier, et puis je peux me décharger sur eux, il se peut que je me décharge beaucoup moins sur Dieu, parce que j'ai trouvé des ressources, et ça répond à mes besoins. Ça se peut aussi que si j'ai tous les moyens pour m'acheter ce que je désire, j'achète ce que je veux parce que j'ai les moyens, je finisse par être intoxiqué et encombré de biens matériels, qui tout à l'heure vont m'empêcher de faire la volonté de Dieu. C'est vrai, hein? Peut-être aussi que je suis valorisé par mes amis. Mes amis m'estiment beaucoup. Puis tout à l'heure, l'opinion de Dieu vient en deuxième, parce que l'opinion de mes amis a pris beaucoup de place. Lorsque nos ressources rencontrent nos besoins, on a moins besoin des ressources du Seigneur. On peut faire ce bilan-là, probablement pour la plupart d'entre vous aussi, comme moi. Dans Jean 2, 15, lisez avec moi. Jean 2, 15, un verset bien connu. qui dit « N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Il y a une question que j'aimerais qu'on trame dans notre esprit ce matin. Suis-je intoxiqué par l'amour du monde? Ou suis-je intoxiqué par les ressources du monde? Suis-je indépendant de Dieu? Est-ce que je suis suffisant en moi-même, à bien des égards, comme croyant? Si vous êtes une personne qui prie peu, déjà là, il y a un symptôme, n'est-ce pas? Si on demande peu de choses à Dieu, c'est parce qu'on a des ressources abondantes. Et si vous recevez peu du Seigneur, vous risquez d'être peu reconnaissant. Alors, si vous vous trouvez dans vos prières peu reconnaissant, ça se peut que vous receviez peu. C'est un petit peu manière à s'évaluer. Comment savoir si je suis intoxiqué par l'amour de ce monde? Le texte qu'on va voir ce matin dans Jacques nous parle de ça. Jacques va identifier des choses pour nous aider à savoir si on est intoxiqué avec l'amour de ce monde. On va lire ensemble dans Jacques chapitre 4. Alors, Jacques, chapitre 4, on va lire le verset 1 à 4 ce matin. On va regarder ce que Dieu a pour nous dans ces versets. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques est étrange, est très tranchant. Mais Jacques a quelque chose d'important à nous dire. Qu'est-ce que c'est nos passions? Parce qu'il s'adresse à des enfants de Dieu ici. Là. Il ne s'adresse pas à des gens qui sont étrangers de Dieu. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est nos passions? C'est nos désirs. C'est ça que ça veut dire. Nos désirs qui se battent en dedans de nous. C'est une connotation négative ici, les passions. Ce n'est pas positif. Ça se rapporte au plaisir qui s'offre à nous dans ce monde. Ça se rapporte à ce que le monde a à nous offrir, qui vient éveiller en dedans des désirs. Des désirs qui ne sont pas en paix avec Dieu. Dans le contexte ici, Jacques s'adresse aux chrétiens, puis il va parler de trois conflits. Trois mots qui parlent de conflits, du moins. Trois mots qui parlent qu'il y a une guerre, il y a une lutte, il y a des problèmes ici qui se passent à cause de ces passions-là. Il va dire lutte, il va dire des querelles dans le premier verset. Puis ici, il se rapporte à des conflits qu'il y a avec les autres autour de nous. Mais regardez l'autre mot. Lorsqu'il dit qu'il combat dans vos membres, ici, il parle d'un conflit intérieur. À l'intérieur de chaque être humain, un conflit à cause de ces passions-là. Littéralement, une guerre. Quelque chose qui fait la guerre à notre âme. Parce qu'on désire et on ne possède pas. Dans le fond, il nous dit au verset 1 qu'il n'y aura pas de paix dans notre cœur. Et puis, il n'y aura pas de paix dans nos relations interpersonnelles si cette passion-là fait des ravages, puis elle n'est pas maîtrisée, ou elle n'est pas comblée par des bonnes choses. Jacques va exposer trois problèmes causés par les passions. À cause du péché dans le cœur des hommes et des femmes. Le premier problème, c'est ça. La lutte qui se fait dans notre cœur. Parce qu'on fait des choses qu'on ne voudrait pas, faire. Et on se retrouve avoir des choses dans notre cœur qu'on aimerait qu'ils ne soient pas là, à cause du péché. Et là, on va réagir envers les autres comme on ne voudrait pas réagir. Au départ, le problème, ce n'est pas avec les autres. Hein? Ça commence dans notre cœur. C'est la première chose. Il y a une puissance là. On la voit. La plupart d'entre nous la voient. On ne peut pas la nier. Il y a une autre chose aussi, un autre problème, c'est que les passions dans notre cœur vont nous vendre des illusions. Comme la publicité à la télévision. Ils nous vendent quelque chose, on l'essaye, puis ce n'était pas tout à fait comme ils ont dit. Mais l'illusion était là. Elle nous a attirés. On l'a essayé. Verset 2 nous parle de ça. Vous convoitez et ne possédez pas. C'était pas comme entendu, là. Je pensais l'avoir, je pensais être heureux avec ça, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Il y a une illusion, là. Qu'est-ce que le monde va nous offrir qui va satisfaire nos passions? Ça va marcher. On reste insatiable. On reste troublé, on reste vide lorsqu'on va chercher satisfaction pour nos besoins ailleurs. Ça fait son temps. Ça engendre toutes sortes de problèmes. Il va dire des choses difficiles ici, des meurtres, des envies, des querelles, des luttes. Pourquoi? Parce qu'on ne possède pas. C'est assez simpliste ce qu'il nous dit Jacques. On ne peut pas posséder parce qu'on n'a pas demandé. On n'a pas demandé au Seigneur. Des meurtres, non. Non, les meurtres, non, on est quand même tranquille là-dessus, quand même. Mais on sait d'où viennent les meurtres. Hein? On sait d'où viennent les meurtres selon 1 Jean 3,15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Mais la haine, l'envie, les querelles, les luttes, ça, on connaît ça. On connaît ça. Et Jacques nous dit ici que si on demandait à Dieu, on serait satisfait pour nos besoins, il y aurait beaucoup moins de ça. La cause de ces problèmes réels-là, c'est qu'il y avait des chrétiens qui étaient insatisfaits de la vie. Des chrétiens qui n'étaient pas comblés. Ils ont négligé une chose, que Dieu pouvait répondre à leurs besoins. Ils se sont tournés ailleurs, alors que Dieu voulait répondre à leurs besoins. Ça nous ressemble des fois d'être mécontents, insatiables. Peut-être que ça vous ressemble aussi. Moi, je lèverai la main. Gardez vos mains baissées, moi je vais me confesser. Ça me ressemble souvent. Et puis, c'est un résultat. J'ai fait un constat lorsque j'ai regardé la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, à chaque fois que je suis insatisfait, que je provoque des conflits, il y a quelque chose, quelque part, que je ne suis pas allé chercher, que tu voulais me donner, tu voulais m'offrir. J'ai couru après ça. Je vis des symptômes. Vous savez, dans Philippiens 4, 6, on nous introduit une réalité. Une réalité qui trouve tout son sens ici, dans le message ce matin, Dieu veut combler tous les domaines de notre vie. Hein, le verset dit, « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Toute chose. Nous, on a des cadres. Moi, il y a certaines choses que je suis capable de m'occuper tout seul. D'autres, je demande à Dieu. Il y a un frère à Saint-Félicien qui me partageait cet hiver, qui est allé s'acheter une minivan chez Honda. Puis il a dit, mon budget, Seigneur, c'est 16 000 $. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça au Seigneur? Tu as de l'argent, va l'acheter. Non, il dit, Seigneur, mon budget, c'est 16 000 $. Il ne faut pas que ça dépasse 16 000 $. Et puis, j'y vais. Puis, j'ai ça que je demande. Et puis, si je trouve ça, kilométrage, budget, je sais que c'est toi qui me donnes. Alors, il y avait des ressources, mais il a demandé au Seigneur quand même. Il est arrivé chez le concessionnaire, et puis c'était 16 100. Seigneur, c'est ça que j'ai demandé. C'est proche, hein, Seigneur? Ça doit être ça. Il a dit au vendeur, il dit, vous savez, j'ai demandé au Seigneur pour une minivan, puis vous avez exactement les caractéristiques que je cherche, mais il dit, vous n'avez pas le prix. Il était décidé. Brian, qui s'appelle. Brian a dit au vendeur, je suis désolé, c'est pas pour moi. Et il dit, c'est 100 $. Il dit, c'est 100 $. OK, je vais vous le descendre de 100 $. Mais Brian a vu vraiment le Seigneur diriger là-dedans. Il aurait pu laisser le Seigneur hors de ça. Ma première voiture. Je faisais l'évangélisation envers les enfants. J'étais missionnaire auprès des enfants au centre-ville à Montréal en 2000. Et puis, je vois une voiture au bord du chemin. Puis je dis, Seigneur, j'ai besoin pour le ministère d'une voiture. Puis, je vois une voiture au bord du chemin. Station. On met des choses hein, dans un station, on en met beaucoup. Et puis, c'était une Volkswagen Fox. Puis là, je dis au Seigneur, « Seigneur, ça serait parfait, ça. » Elle avait 14 ans. Mais je pense que j'étais dirigé par l'Esprit-Saint. Puis là, j'ai dit, « Seigneur, ça serait parfait. » Puis j'étais tout excité. Puis je l'ai regardé, puis je me suis assis, j'étais en face de la mission, puis je convoitais le Seigneur. Puis là, je priais, « Seigneur, c'est juste ça que j'ai besoin. » J'arrive chez Antonio Basquin la semaine d'après. Il y a une Volkswagen Fox. T'es en cours. Pancarte à vendre. Je suis sorti de là avec une Volkswagen Fox. J'ai roulé un an. Mais vous savez quoi? Je sais que ça venait du Seigneur. Ben, je l'ai demandé. Il m'a donné. Et souvent, Dieu va faire ça. Les ressources matérielles, c'est quelque chose que Dieu veut qu'on le consulte. On voit ça dans la parole. Dans Matthieu 6, 30, 33, je vais vous lire quelque chose. Il y a des promesses ici concernant les ressources matérielles. Se confier à Dieu pour les ressources matérielles. Parce que Dieu a affaire avec tout ça. Si Dieu revêt ainsi, dans Matthieu 6, 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il plus pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu qui devraient s'inquiéter de ça. Regardez ce qu'il dit après. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait de quoi on a besoin. On prend les choses en main, on s'inquiète, on dit « Ah, j'ai mes ressources, je vais m'organiser. » On est stressé, puis on est crispé, puis on va de l'avant. Mais non, Dieu, il veut qu'on regarde ça avec légèreté. Dieu veut qu'on lui confie ça. Dieu va en prendre soin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une promesse. Toutes ces choses vont nous être données par-dessus. Dieu sait de quoi on a besoin. Il va pourvoir à toutes ces choses. Peut-être pas nos ambitions, mais nos besoins. Avec abondance. Nos passions nous vendent des illusions, puis les ressources de ce monde vont nous laisser insatiables, vides, insatisfaits. Nos passions nous rendent aussi nos prières, font obstacle à nos prières, inefficaces. Regardez le verset 3 qui dit, on retourne en Jacques, verset 3 qui nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas. » C'est frustrant. On vit ça souvent. « Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Il y a une image ici. Des gens qui demandent mal. Qui demandent des choses qui font offense à Dieu. Dieu ne donne pas audience à nos convoitises. Lorsqu'on vient devant le trône de la grâce puis qu'on vient demander quelque chose au roi des rois, seigneur des seigneurs. Il ne donne pas audience à des convoitises, des désirs qui lui font offense. Il ne donne pas audience à de la haine, de la jalousie, de la convoitise. Il les voit, ces choses-là, dans notre cœur. Si nous, on néglige de regarder s'ils sont là, lui, il les voit. Et puis, il ne répond pas. Lorsque Dieu ne répond pas, il faut se poser des questions. Pourquoi, Seigneur? Il y a sûrement une raison, une bonne raison. Dieu ne donne pas audience à ça. Il y a des choses cachées. Il faut se poser des questions. La prière entendue de Dieu, c'est celle qui est faite par son esprit. Seigneur, il me semble que j'aurais besoin de ça. C'est pas gourmand, là. Juste ça ici. Là. Je n'en demande pas beaucoup, Seigneur. Tu sais de quoi j'ai besoin. Seigneur, je te demanderais que tu puisses prendre soin de mes besoins. Il y a un frère qui cherchait un travail et puis il cherchait les portes ouvertes, mais je ne sais pas laquelle. J'ai dit, Patrice, demande avec précision. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et Seigneur, je te demande ça. Puis quand ça va venir, tu vas savoir que ça vient du Seigneur. Il arrive la semaine d'après, il dit, Jean-Philippe, j'ai demandé au Seigneur 17,50 $. J'ai dit, comment tu as calculé ça? Bien, il dit, ça fait 35 000. Ah, c'est bon? Puis pourquoi tu as décidé 35 000? Ben, je suis célibataire, puis tu sais, je veux quand même un jour me marier, il faut que j'en mette un peu de côté, mais c'est correct, 35 000. Hey, je ne l'ai pas trouvé gourmand. Mais le Seigneur a répondu. 3 jours après, on lui offre 17,50 $. Hein? Un clin d'œil du Seigneur. On demande avec précision, dirigé par l'Esprit de Dieu, pas la gourmandise, puis pas l'avarice. Dirigé par l'Esprit, et puis reçu du Seigneur. Dieu va faire ça. Lorsque nos prières sont dirigées par l'Esprit, ils vont être entendus, ces prières-là. Enfin, regardez le verset 4. Toute une image ici, une image importante dans le verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut faire... qui veut être ami du monde, sera ennemi de Dieu. » Il y a une image ici, hein? Vous avez déjà vu deux armées se confronter sur une ligne, sur un champ de bataille, et puis ils sont un en face de l'autre. Il y a une image ici où ce que celui qui se fait ami du monde change de camp. Celui qui s'attache aux ressources du monde se détache de Dieu. C'est un principe qu'on voit dans Matthieu 6, 24. Soit qu'on s'attache à un ou qu'on s'attache à l'autre. Soit qu'on devient dépendant d'un ou dépendant de l'autre. Soit qu'on se range dans le camp de Dieu pour nos besoins, ou soit qu'on se range dans le camp de l'ennemi. Se rend ennemi de Dieu, ce n'est pas peu de choses. Tu as des besoins, Dieu dit, viens, je vais te donner avec abondance, je vais prendre soin de tes besoins, je vais te combler. J'ai beaucoup de choses, bien meilleures que ce que tu t'attends pour toi. Mais on regarde vers les ressources de ce monde, on devient comblé avec ça. Et tout à l'heure, on réalise que ce qui nous a comblés, c'était vide. C'était absurde. Et entre-temps, on s'est rendu ennemi de Dieu. Est-ce que c'est possible? Jacques s'adressait à des enfants de Dieu ici. Les bénédictions de Dieu. Vous savez que les ressources de ce monde sont une bénédiction de Dieu. On voit ça? Dans Jean 3, 17, on parle que c'est une bénédiction, puis on dit, si tu en as en abondance, puis ton frère en manque, ouvre tes entrailles, donne-lui. C'est lorsqu'on s'attache à ces choses-là, on se confie dans ces choses-là, ou même qu'on se ressource, puis on met Dieu de côté. C'est là que la malédiction vient dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi j'irai vers Dieu, vers tous mes besoins, pour tous mes besoins? Deux choses. Pour protéger mon cœur, de m'attacher, me confier dans mes ressources ou celles que le monde a à offrir. Il y a un élément de protection ici contre vous-même parce qu'il y aura une guerre en dedans de vous. Avec ces désirs-là, pour que vous puissiez vous apprendre, que vous appreniez à vous attacher à Dieu. Ce qui arrive, lorsqu'il arrive qu'on prie, on demande, on voit, on s'attache, on s'affectionne. Quelqu'un qui prend soin de nos besoins, ah, ça nous touche. On tombe en amour avec ces gens-là qui prennent soin de nous. Si on ne demande pas, naturellement, on va s'attacher ailleurs. Enfin, pour recevoir de Dieu ce qui est vraiment bon pour moi. Si vous demandez à Dieu pour tous vos besoins, vous allez recevoir ce qui est bon, comme un père qui donne à son enfant ce qui est bon pour lui. Vous savez, au début, un enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui. Papa dit non souvent. Demandez à William. Si papa dit non souvent, c'est parce que il sait ce qui est bon pour moi. Et puis, à mesure qu'on grandit, que mon enfant va grandir, vos enfants ont grandi, on dit non moins souvent. Parce qu'ils savent un peu plus, ils ont grandi, ils savent de quoi ils ont besoin, et puis tranquillement, ça change. Mais c'est la même chose avec le Père Céleste. On apprend ce qui est bon pour nous, on accepte les noms, parce qu'ils vont en avoir des noms. Papa prend soin de nous lorsqu'il nous dit non souvent, parce qu'on est encore en train de lutter avec des passions. Puis tranquillement, pas vite, papa dit oui. On sait un peu plus qu'est-ce qui est bon pour nous. On sait un peu plus quoi demander. On apprend. Et on découvre que Dieu donne, on reçoit de plus en plus. Quand je demande à Dieu dans le but de satisfaire sa volonté, il me donne et avec richesse. Vous savez, la personne qui demande à Dieu pour tous ses besoins, elle va être comblée spirituellement. Elle va être contentée matériellement. Ça n'existe pas dans notre monde d'être contenté matériellement, ou ça existe très peu. Et malheureusement, ça grimpe dans nos vies, ça. Mais Dieu veut nous contenter matériellement. Il veut nous donner la paix qui surpasse toute intelligence parce qu'on s'est confié en lui. Possible que ce matin, il y ait des gens ici dans la salle qui disent, c'est vrai, j'ai des passions en moi. J'ai l'impression qu'il y a une guerre en dedans de moi. C'est la première fois que je me rends compte de ça. Il y a une guerre là. j'ai besoin d'aide avec ça. Possible que c'est vous ce matin. Dieu veut vous donner la paix. Vous savez que la paix, il l'a déjà préparée. Puis je pense qu'avant que vous considériez trouver la paix dans votre entourage, il faut que vous trouviez la paix avec Dieu dans votre cœur. Par Jésus-Christ. Celui qui peut vous donner la paix. Possible aussi que vous disiez, moi j'ai arrêté de demander à Dieu. Possible que vous êtes devenu amer. Parce que Dieu ne vous a pas donné. Il faut reconnaître en cours de route, hein, que le blâme n'est pas sur Dieu. Ce n'est pas de la faute à Dieu. Prenez le temps de sonder. Demandez au Seigneur, montre-moi. Mais certainement que Dieu n'est pas coupable. Dieu aimerait vous donner. Possible que vous soyez amer. Ça se comprend. Mais Dieu veut vous donner. Il y a une réflexion à faire. Demandez à Dieu de vous aider, de vous montrer ces choses-là. Possible aussi que vous disiez ce matin, « Hey boy, ça ne me ressemble pas. Je reconnais une chose, c'est que je prie peu. » Moi, j'ai reconnu ça. J'ai passé au travers de ça, puis j'ai dit, « Seigneur, ça me ressemble tellement à ça. Qu'est-ce que je vais raconter aux gens en avant? » J'étais cet hiver, puis je pensais à ça. Puis j'ai dit, « Seigneur, je suis des gens qui prient peu, pas assez à mon goût. Il y a un symptôme ici, là. Il y a un problème dans mon cœur. » J'ai commencé par demander pardon au Seigneur. D'avoir été chercher les ressources ailleurs. D'avoir regardé avec aveuglement et pris toutes les ressources du monde pour combler mes besoins. Et j'étais allé à Dieu. J'ai regardé qu'est-ce qui me troublait, qu'est-ce qui m'inquiétait. J'ai confié ça au Seigneur. Puis j'ai dit, Seigneur, je vais commencer. Et puis j'ai lancé le défi devant l'Assemblée déjà. Je vous lance ce matin de prier et de demander 3 choses par jour. Vous voulez vous exercer à ça? Demandez 3 choses par jour, concrètes. Dites, Seigneur, aujourd'hui, je vais vivre ça. J'ai ça qui me trouble. Ça, c'est gros. Regarde ça, Seigneur. Montrez ça au Seigneur. Demandez concrètement, spécifiquement. Vous allez voir, avec vos propres yeux, Dieu répond. Dieu va vous donner parce que vous avez demandé. C'est un principe ici simple et facile. Parce que Dieu donne à celui qui demande bien. Prions ensemble. Père Céleste, merci parce que tu n'es pas un père cheap qui donne des miettes. Père Céleste, tu donnes avec abondance. Tu ne donnes pas des choses non plus qui vont nous égarer, qui vont nous faire du tort. Tu donnes avec bienveillance. Et tu ne changes pas, tu es fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Puisses-tu nous bénir ce matin par ta parole? Puisses-tu nous faire de nous des gens qui demandent et qui y prennent goût pour voir le Père Céleste? Pour être comblé de tes bénédictions. Amen.